France Inter est à Saint-Brieuc ce samedi. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Grand Face à Face, une émission au format XXL et en public. Public que j'applaudis chaleureusement. Nous sommes ensemble pour deux heures d'émission. Deux heures, vous connaissez le principe, pour ouvrir le dialogue, pour essayer d'instaurer quelque chose comme un dialogue citoyen, pour faire, et c'est rare par les temps qui courent, le pari de l'intelligence collective, prendre le temps d'un débat démocratique. C'est la troisième émission de ce rendez-vous que vous propose France Inter pour rythmer la campagne présidentielle. Mes camarades Gilles et Natacha sont avec moi ici à Saint-Brieuc. Salut les amis.
Bonjour. Bonjour.
Et on peut les applaudir. Ils sont investis, ils ont travaillé, ils sont prêts aussi à ferrailler et à répondre à vos interpellations. Et merci à vous, merci chaleureusement au public nombreux qui nous accueille ici à Saint-Brieuc dans la salle de Robien. Des micros vont circuler dans la salle pour vous donner la parole et vous permettre de vous exprimer. Et merci en tout cas d'avoir bien voulu participer à cet exercice un peu particulier. L'endroit n'est pas anodin puisque la salle de Robien à Saint-Brieuc, c'est un lieu chargé d'histoire, un lieu dont j'ai appris qu'il avait vu passer des meetings politiques. Un lieu qui accueille des balles, des concerts et même des combats de boxe. C'est un beau programme après tout. Faire vivre les idées politiques, être ensemble comme dans une danse et confronter nos points de vue et nos différentes sensibilités. Le grand face-à-face cette semaine, spécial écologie avec un invité spécial, Cyril Dion. C'est l'une des figures majeures du combat écologique dans notre pays. Militant, réalisateur, son dernier film Animal est sorti mercredi au cinéma. Cyril Dion était l'un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Autant dire que l'écologie, il la voit aussi comme un enjeu démocratique, un enjeu dont nous devons nous emparer collectivement. Et il viendra nous rejoindre dans un instant.
Le grand face-à-face XXL. Ali Badou sur France Inter.
L'écologie en débat dans le grand face-à-face, mais quelle écologie et quelle écologie politique? Le constat est fait, vous le savez, les signes ne manquent pas, qui indiquent à la fois l'urgence, l'imminence même pour certains de la catastrophe, réchauffement climatique, extinction des espèces, pollution. Nous savons, enfin je l'espère, nous savons qu'il n'y a pas de planète B, mais s'il y avait un plan B pour la planète, c'est une question dont on parlera avec Cyril Dion, mais il nous a semblé naturel de poser cette question justement ici à Saint-Brieuc, dans votre magnifique baie en Bretagne, parce qu'ici, ici, peut-être mieux qu'ailleurs en France, vous savez à quel point les questions écologiques sont concrètes, combien elles sont complexes également. Ici, dans cette région, quand on parle de protection de la nature, quand on parle de transition énergétique, je vais juste prononcer un mot qui suscite les passions, éolienne. Ça suscite des rires en tout cas. Et ce sera l'un des débats tout à l'heure avec Cyril Dion. Lorsqu'on parle à Saint-Brieuc de la pollution des océans, ce ne sont pas des sujets abstraits. Et ça fait des décennies qu'ici en Bretagne, on réfléchit aux défis posés par l'agriculture, par l'élevage intensif, par l'impact de nos modes de vie sur l'environnement, avec ce symbole qui est bien plus qu'un symbole et que sont les algues vertes. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais d'abord faire part de mon étonnement avant de commencer le débat. C'est un étonnement réel. Je dois vous avouer que je n'aurais jamais pensé devoir inscrire l'écologie à l'agenda d'une campagne présidentielle. Je n'aurais jamais pensé, après ces dernières années, que le sujet, ce qu'on a appelé la cause du siècle, soit, et j'exagère à peine, quasiment absent du débat présidentiel. Et c'est en tout cas le choix que nous avons fait à France Inter aujourd'hui de parler d'écologie, d'ouvrir la discussion avec vous et avec Cyril Dion. Et on va évidemment, c'est la tradition du grand face-à-face, revenir sur quelques-uns des temps forts de la semaine. Tout de suite, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter, le grand face-à-face XXL à Saint-Brieuc.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, qu'on peut applaudir à nouveau chaleureusement. On est dans notre pays très centralisé. On est à près de 500 kilomètres de Paris, de la capitale, et un clin d'œil à la couverture du magazine Marianne cette semaine. Couverture où l'on voit ce titre « Provinciaux, ruraux, ultramarins et même parisiens ». Pourquoi ils détestent tous Paris? Ben, c'est une excellente question. En tout cas, nous avons fait le choix de faire un tour de France. Pourquoi ils détestent tous Paris d'ailleurs, Natacha?
Il y a plusieurs explications, mais peut-être parce que Paris apparaît un petit peu comme le miroir de ce que pourrait être le reste de la France et que ça fait pas forcément envie. Et puis parce que Paris, c'est l'État, ce sont les institutions et qu'il y a une défiance qui s'est installée. C'est tout ça qu'on analyse dans Marianne.
Et une défiance qui est moins forte envers les élus locaux. Et tout à l'heure, nous rejoindra le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, qui est également concerné par ces questions écologiques. On va revenir donc dans le duel sur cette semaine qui était intense en politique, peut-être déterminante pour la présidentielle. Fin des vrais et des faux suspens à droite et à l'extrême droite. Et on va commencer par une déclaration de candidature.
On persécute toujours ceux qui sonnent le tocsin et au contraire, on est aimable avec ceux qui mettent le feu. Donc ceux qui me reprochent d'exacerber les tensions, ce sont eux qui mettent le feu en ne faisant rien depuis 30 ans, depuis 40 ans.
C'était évidemment Éric Zemmour, c'était mardi soir sur TF1 devant 7 200 000 téléspectateurs. Interview d'Éric Zemmour qui n'a pas aimé le ton de celui qui l'interrogeait, Gilles Boulot. Mais qu'est-ce qui vous a frappé dans la fin de cette chronique d'une annonce prévue, Gilles?
Oui, l'information n'est pas que Éric Zemmour est candidat. Je crois que c'est une surprise pour personne. L'information de la semaine, c'est qu'il a raté son entrée en campagne.
Et raté.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre à la fois les causes et les conséquences de cet échec. Je crois qu'il a raté d'abord le moment majeur. Vous l'avez dit, plus de 7 millions de téléspectateurs, le 20h de TF1, c'est le moment où il faut réussir. Or, il n'a montré qu'il n'avait ni le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il a répondu aux questions, alors que dans une émission comme ça, on doit y aller pour faire passer des messages. Et il a montré qu'il n'avait pas l'autorité face aux journalistes, qu'il a subi l'interview. Et pour un candidat positionné, comme vous l'avez dit Ali, comme Éric Zemmour à l'extrême droite, le fait de manquer d'autorité, de ne pas être le chef, est un handicap supplémentaire. Donc je crois que ça, c'est... Il a raté le moment majeur, mais d'une certaine manière, il avait raté aussi le moment précédent. Et donc, il est arrivé dans une configuration qui était plus difficile. Il y a eu une faute de temps. On a eu, à un moment, le sentiment d'une percée qui était irrésistible. Peut-être à ce moment-là...
Mais qui était réelle.
Qui était réelle. Pas irrésistible, mais réelle. S'il avait déclaré sa candidature dans ce mouvement-là, elle aurait été sans doute perçue différemment. Et puis, il a multiplié dans les dernières semaines les fautes de style. C'est l'arme pointée contre les journalistes, c'est la cérémonie au Bataclan, c'est évidemment le doigt d'honneur à Marseille. Et tout ça fait que je crois que cette entrée en campagne a été une entrée en campagne ratée.
Natacha Polony.
Oui, je partage l'avis de Gilles sur l'analyse notamment de cette interview. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant à partir de maintenant, c'est d'observer d'abord ce qui va se passer dans la suite pour Éric Zemmour et pour les idées qu'il prétend incarner, et la question de savoir donc comment va se reconfigurer ou non ce champ politique de la droite et de l'extrême droite. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dynamique qui a porté Éric Zemmour ne signe pas, je pense, le fait qu'il y aurait jusqu'à 16% de gens qui adhéreraient à une vision authentiquement réactionnaire, anti-révolutionnaire, anti-lumière de la France. Je ne crois pas du tout. Je crois que la poussée d'Éric Zemmour a eu lieu malgré son fond idéologique, à la fois maurassien, réactionnaire, etc. Et que sans doute, le rappel de ses positions sur Pétain, les doutes qu'il exprime, doutes totalement hallucinants sur la culpabilité, enfin, sur l'innocence de Dreyfus, par exemple, sont des choses qui ont joué contre lui et qui font que, finalement, ces gens qui adhéraient à la part de son discours qui est le constat d'un déclin inquiétant de la France, l'idée que l'école ne jouerait plus son rôle, que la désindustrialisation nous aurait rendu dépendants, tous ces gens-là, eh bien, constatent que, hélas, celui qui prétend porter ce discours-là n'est pas l'incarnation de l'idéal républicain, et donc ça crée en fait une forme de fracture. Donc il va falloir voir comment ces gens-là vont décider d'agir à partir de maintenant.
Un mot de complément, Gilles.
Oui, sur les suites, pour autant qu'on puisse le dire. Je crois que dans la période précédente, on a sans doute péché par un excès de pessimisme, vous le disiez tout à l'heure, une percée irrésistible. Il ne faudrait pas aujourd'hui pêcher par excès d'optimisme et penser que le phénomène va s'affaisser aussi rapidement qu'il a progressé. Il est malgré tout à 13%. Personne n'aurait pu imaginer il y a 2 mois ou il y a 3 mois qu'Éric Zemmour soit à ce niveau-là. Et il y a des fondamentaux d'opinion, alors sans doute pas, comme le disait Natacha, sur sa vision de l'histoire, mais sans doute sur ce que sont ses préoccupations et pour partie ses convictions. J'ajoute un tout dernier mot, c'est que oui. Autant il a raté TF1, autant la vidéo sur YouTube, qui était la vraie déclaration de candidature, vue par plus de 2,5 millions de Français, évidemment, à titre personnel, je trouve par bien des aspects grotesques, mais les messages qu'il veut faire passer sur son positionnement, ils étaient là pour le coup, ils étaient présents. Donc, on va voir, mais je crois qu'on a eu beaucoup de surprises déjà sur cette pré-campagne présidentielle et qu'elles ne sont pas finies.
Le duel continue.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
Michel, Xavier, Philippe viennent de m'apporter leur soutien. Je veux leur dire toute mon amitié et toute ma reconnaissance. Avec eux, avec leurs équipes, avec tous leurs élus, je rassemblerai notre famille politique.
C'est d'abord aux militants que je veux m'adresser pour leur exprimer ma reconnaissance. Il y a quelques semaines, peu de commentateurs auraient parié sur ce résultat aujourd'hui. Eh bien, ça démontre que la force de la volonté, la vérité, la clarté en politique finissent toujours par triompher.
On vient d'entendre Valérie Pécresse et Éric Ciotti. L'un des deux sera le candidat du Parti Les Républicains à l'élection présidentielle. Ça vous a surpris, Natacha ?
Ça a forcément surpris beaucoup de monde parce qu'il était totalement impossible de faire des pronostics. Alors là, nous saurons dans un peu plus de 2 heures, sans doute, quel est le candidat des Républicains à l'élection.
Là.
Le ou là, bien sûr. Alors, on ne va pas se mentir. Hein. A priori, Valérie Pécresse, sur le papier, semble mieux placée. Et là encore, tous ceux qui ont dit « Regardez, 25%, plus de 25% à Éric Ciotti, c'est la preuve que la droite française a basculé dans quelque chose de profondément réactionnaire », il faut quand même reconnaître que les 3/4 de cet électorat très petit que sont les militants LR ont choisi justement des candidats qui, pour le coup, se ressemblaient relativement sur le positionnement. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est le fait que pour la première fois, on a eu des candidats, les Républicains, qui d'abord sont allés sur des positions sur les questions d'immigration de façon quasi obsessionnelle et assez caricaturale, mais surtout, parce que ça avait déjà été fait, puis quand on regarde le programme du RPR des années 90, on y trouve la préférence nationale, l'immigration zéro, etc. La nouveauté, c'est pas ça, me semble-t-il. La nouveauté, c'est que tous se sont sentis obligés de dire que l'Union européenne constituait un blocage. Je pense qu'ils n'en pensent pas un mot. Mais ils se sont sentis obligés de le dire. Et ça, c'est un mouvement dont il va falloir voir s'il aura des conséquences ou pas sur cette part de l'opinion.
Gilles.
Oui, dans quelques heures maintenant, les Républicains auront un candidat. Et c'est un premier succès pour ce parti. La primaire s'est tenue. Elle a rassemblé, y compris ceux qui étaient en dehors de ce parti il y a peu. C'est un premier succès. Et son déroulement, quand on le compare aux primaires qui ont eu lieu dans les élections présidentielles précédentes, ont montré des débats qui étaient maîtrisés et donc une unité qui peut être préservée après la campagne. D'autant qu'ils ont fait, d'ailleurs je ne m'en étais pas aperçu avant ces derniers jours, un choix très original qui est de ne pas avoir de campagne de l'entre-deux-tours. Les deux tours se sont succédés et ça évite la cristallisation entre deux camps. Donc ça, je trouve que c'est plutôt réussi pour les Républicains. Après, il y a trois phénomènes qui me frappent beaucoup. Le premier, c'est la relégation de ce parti. Songez, il y a exactement 5 ans, à la même période, lorsqu'il y a eu la primaire, 4 millions de Français se sont déplacés, là c'était 100 000. Tout le monde pensait que c'était le futur président de la République qui était élu. Là, quel que soit celui ou celle qui va être choisi, il est aujourd'hui 4e dans les sondages. Deuxième phénomène, c'est la rétraction de ce parti, rétraction sociologique. Je me suis livré hier, pour Ali qui adore ça, au calcul suivant. Vous avez sur 100 électeurs des Républicains aujourd'hui, vous en avez 3 qui ont entre 18 et 24 ans, 66,
3 seulement.
66 qui ont plus de 60 ans. Donc rétraction sociologique et rétraction idéologique. Il n'y a pas une vision globale de la société qui a été développée, ce sont les mêmes thèmes qui sont revenus. Enfin, ça a été souligné 1000 fois, donc je ne m'y attarde pas, droitisation beaucoup plus importante qu'auparavant, et c'était évidemment très frappant.
Pour terminer, Natacha.
On peut ajouter un tout petit mot sur Valérie Pécresse, si c'est elle qui est désignée. C'est tout de même celle qui se situait le plus au centre de l'ensemble des candidats. Et cela va constituer quelque chose de beaucoup plus compliqué pour Emmanuel Macron. C'est sans doute le scénario qu'il redoute le plus. Bien plus que Xavier Bertrand, avec qui il a joué le combat viril. Pourquoi ? Parce que Valérie Pécresse est en fait totalement sur son créneau. Si on accepte les positions qu'elle a prises là, pendant cette campagne, sur le reste de son parcours politique, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. En revanche, elle dispose d'un élément qui est devenu quelque chose qui compte dans une campagne, c'est une femme. Et donc, quitte à prendre le même, certains peuvent se dire que le même avec une petite nouveauté, et c'est ça qui est très redouté du côté de la Macronie, et ce qui peut-être faire bouger là aussi quelques lignes.
Vous parliez de la jeunesse absente chez les Républicains, vous parliez aussi des thèmes qui ont été abordés pendant cette pré-campagne. On va faire l'inverse, on va justement parler des nouvelles générations, de l'écologie, on va en débattre sur France Inter dans ce grand face-à-face XXL avec notre invité Cyril Dion qui va nous rejoindre dans un instant.
France Inter, le grand face-à-face XXL, le débat.
Le grand face-à-face XXL ici à Saint-Brieuc en public et jusqu'à 14h. Les applaudissements, vous le savez, sont justement pour vous, Cyril Dion. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. L'écologie en débat ce samedi. Les micros vont circuler dans la salle dans un instant. C'est vous que nous voulions entendre justement. Vous êtes réalisateur, écrivain, militant écologiste. Vous étiez l'un des garants de la Convention citoyenne sur le climat et vous avez travaillé sur ce lien entre le combat écologique et la question démocratique. Vous venez de signer un film qui est sorti en salle, c'est un documentaire, le titre il est tout simple, Animal. Animal, c'est un livre qu'on peut voir sur grand écran et c'est aussi un livre publié chez Actes Sud avec un sous-titre, Chaque génération a son combat, voici le nôtre. Alors on va en parler parce que Animal, c'est une manière de nous rappeler que l'homme est peut-être un animal politique, mais que nous faisons partie du règne animal. Puisque nous parlions de politique, est-ce que ça vous surprend ce peu de place accordée à l'écologie dans cette pré-campagne ou ce début de campagne présidentielle ?
Je dirais que ça me surprend si je regarde les choses il y a 6 ou 8 mois, voire même peut-être encore un petit peu avant ça, puisque je pense que la question climatique a commencé à émerger très très fort en 2018. Puis, c'est imposé parce qu'on a vécu plusieurs étés qui nous ont permis de toucher du doigt les conséquences que ce phénomène avait dans nos vies, et que c'était pas simplement une théorie ou des chiffres dans un rapport. Et en même temps, ça m'étonne pas, étant donné ce qui se produit, c'est-à-dire que je vois bien que...
Ça ne vous étonne pas?
Ben, la campagne présidentielle a été hackée d'une certaine manière. Elle a été hackée par...
Comme par les pirates informatiques.
Exactement, par Éric Zemmour dont vous parliez, avec un récit qui est simplificateur, qui à bien des égards est manipulateur, mais qui est un récit suffisamment simple pour que ça puisse toucher beaucoup de gens. Et il a obligé tout le monde à se situer par rapport à ce récit. Et en face de lui, pour moi, il n'y a pas de récit suffisamment puissant pour pouvoir embarquer la conversation sur d'autres sujets, et en l'occurrence sur la question écologique, il me semble qu'il n'y a pas de récit qui soit formulé de façon suffisamment désirable et entraînante pour ça.
Vous essayez d'en proposer un et on va en parler, on va en débattre avec Gilles et Natacha. Mais justement, cette question écologique en politique, c'est une question que se pose forcément le maire de Saint-Brieuc qui nous accueille, Hervé Guillard. Bonjour, monsieur le maire, et merci infiniment de nous accueillir dans votre ville. On est ici au cœur d'un éco-quartier. C'est votre premier mandat de maire. On disait que l'écologie était absente de la campagne présidentielle, ou en tout cas que ce n'était pas l'un des sujets dominants jusqu'à présent de la campagne présidentielle. Ici, comme élu local, c'est une préoccupation que vous diriez quotidienne?
Oui, ça fait partie des trois urgences qu'on a mis dans notre mandat politique, l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. Et en fin de compte, la question qu'on se pose, c'est où se passe réellement la transition écologique? À Paris, comme vous disiez tout de suite, au niveau national, ou dans les villes?
Oui.
Nous, on pense que ça se passe ici. Et que l'enjeu, derrière tous les autres enjeux, algues vertes et autres, en fait, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. La première mission qu'on a eue, c'était d'arrêter un lotissement. Ils sont combien, les maires ou les mairies, à arrêter le lotissement? Il y a toujours une bonne raison d'en faire un de plus. Ici, on arrête et on se dit que tout le développement économique, faire revenir des habitants, c'est pas en faisant des lotissements de plus, c'est en rénovant, reconstruisant la ville sur elle-même. En fait, c'est un projet tout nouveau, mais c'est ça, on pense, la vraie réponse aux objectifs de la COP26, quoi.
Et on a beaucoup dit que la Bretagne, en général, était une terre de combat éco-responsable, et on va en parler tout au long de cette émission avec vous, Cyril Dion. Mais d'abord, ce film que je recommande chaleureusement d'aller voir, c'est un film important. C'est un voyage initiatique. Ce sont deux jeunes de 16 ans, ce sont deux adolescents qui partent à la découverte de la nature. Ils découvrent aussi ce qu'on appelle la sixième extinction, l'extinction de masse des espèces animales. C'est assez frappant parce que vous en parlez justement comme un récit. C'est comme s'il y avait deux films dans le film. Il y a ce récit d'apprentissage, deux gamins au contact du monde naturel, de la vie sauvage. Et il y a un deuxième film dans le film, c'est votre réflexion sur la manière de mener le combat écologique aujourd'hui, la manière de raconter une nouvelle histoire. Pourquoi est-ce que cette histoire-là, le mot d'histoire, de récit, est si important dans notre rapport à l'écologie et au combat que ça implique?
Pour moi, c'est important pour pas que pour l'écologie, c'est important de façon générale. C'est-à-dire, je pense que les êtres humains sont des êtres de récit, qu'on passe notre temps à en construire. Raconter des histoires, c'est la façon que les humains ont de partager leur subjectivité avec les autres. Alors après, la question est de savoir sur quoi on fonde ces histoires.
Et quelle histoire?
Est-ce qu'on fonde ces histoires sur des perceptions, des fantasmes? Ou est-ce qu'on fonde ces histoires, au contraire, sur des faits avérés? Et pour moi, ces histoires, quand elles sont largement partagées, c'est un peu ce que dit Yuval Harari dans son bouquin Sapiens, c'est-à-dire que plus une histoire est largement partagée, plus les personnes qui adhèrent à cette histoire, ensuite, obéissent aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes codes. Et donc, ça finit par devenir des structures politiques, économiques. Et pour moi, on vit dans un récit. Et ce récit, c'est celui de la croissance économique, c'est celui du progrès, avec des gros guillemets. C'est-à-dire, oui. On s'est dit pendant des décennies que le progrès, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire toujours plus de croissance du PIB, toujours plus de production, de consommation. Et ce récit est en train de se fracasser à la réalité biologique, puisque on voit bien que les espèces disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que la normale. On voit que le climat se dérègle et qu'on a besoin d'inventer d'autres récits, c'est-à-dire de se dire comment est-ce que nous, les humains, on veut habiter cette planète.
Et comment moi, on ça peut passe écrire par la cette histoire. Je vais donner la parole dans une seconde à Natacha, mais puisque les histoires, ce sont des histoires avec des mots, les mots comptent, les mots qu'on emploie. Un mot, pourquoi environnement, c'est un mot que vous n'aimez pas et que vous avez appris à ne pas aimer justement pour décrire notre relation à la nature?
C'est pas que je l'aime pas, c'est que pour moi, la sémantique crée des imaginaires. Et quand on parle d'environnement, on parle de ce qui nous entoure. C'est comme si on parlait d'un décor. Et pour moi, cette sémantique participe à cette séparation factice que les humains ont créée en se disant, il y a les humains d'un côté, et puis il y a l'environnement ou la nature de l'autre.
Ouais.
Ce qu'on essaie de montrer dans l'animal, c'est que, au contraire, on est complètement enchâssé dedans. Si on peut manger, si on peut boire, si on peut respirer, c'est parce qu'il y a le monde vivant, et c'est le monde vivant qui nous a fait. C'est pas l'inverse.
Natacha Polony.
C'est vrai que quand j'ai vu ce film, j'ai pensé non pas au terme environnement, mais au concept grec de cosmos, c'est-à-dire l'univers harmonieux dont nous sommes une partie. Je pense que c'est cela qui fait le cœur justement de ce film. Mais ce film, vous prononcez beaucoup le mot de récit. Ce film nous raconte, en fait, nous montre à quel point la question de la biodiversité, la question de notre capacité à nous perpétuer dans ce monde est éminemment lié à notre modèle de développement. Il y a des images bouleversantes, notamment celles, on a beau les avoir déjà vues, la façon dont vous les filmez sont terrifiantes, de ces plages indiennes, mais entièrement recouvertes de plastique. Et je me suis demandé, en voyant ce film, à quel moment ce récit dont vous parlez, le récit du développement tel que l'Occident l'a pensé, a basculé. Parce que ce qui ressort, c'est la question démographique et la question du consumérisme. L'idée que notre bien-être est lié à la consommation et notamment à la consommation d'objets plastiques et donc à la publicité et au marketing. Comment on sort de ce récit-là ?
Cyril Dion.
C'est toute la question de savoir comment on en sort. Il me semble que la seule façon d'en sortir, c'est de proposer des récits alternatifs qui sont des trajectoires de sens suffisamment puissantes pour qu'elles nous mobilisent. Là, ce qui me semble être inopérant, vraiment inefficace, c'est de proposer à des gens de rester dans le même récit, c'est-à-dire dans ce récit où on nous a dit que ce qui nous rendrait heureux, c'est de consommer, c'est d'avoir accès à la consommation, de pouvoir voyager comme on veut, de pouvoir manger de la viande tous les jours. Et à l'intérieur de ce récit, de dire « Ah bah attention, ça ne va pas, il y a la crise écologique, donc on va retrancher tout un tas de trucs qui faisaient le sel de ce récit. Donc vous n'avez plus le droit de manger de viande, donc vous ne pouvez plus prendre l'avion, vous ne pouvez plus prendre votre voiture. » Évidemment que ça ne marche pas. En revanche, si on se projette dans un monde où on se dit bah, la finalité, c'est pas la croissance économique. La finalité, c'est peut-être justement de perpétuer la vie. C'est peut-être de vivre en bonne santé. C'est peut-être la solidarité, le lien social. Et ça nous impose de repenser nos territoires. Ça nous impose de repenser la façon dont on fait de l'industrie, dont on fait de l'agriculture. C'est absolument passionnant. Ça nous impose de commencer à comprendre comment le monde vivant fonctionne et de coopérer avec lui. Et à l'intérieur de ce récit-là, qui est une trajectoire de sens puissante, manger un peu moins de viande ou prendre un peu moins sa voiture, ça perd de sa gravité. C'est-à-dire que c'est plus le cœur du problème.
C'est plus le cœur du problème et ça permet de penser aussi à l'avenir, aux jeunes générations. On a entendu un enfant gazouiller tout à l'heure et j'adore ce son puisque, après tout, c'est des générations à venir dont on parle. C'est à elles que vous vous adressez et c'est cette planète habitable et qui doit le rester que nous devons préserver. Gilles Finkelstein.
Alors précisément là-dessus, je trouve que la force du film, elle tient à ce qui a été évoqué, le récit, les images dont parlait Natacha, elle tient beaucoup, beaucoup aux deux personnages centraux, deux adolescents, Bella et Vipulan, qui sont formidables, non seulement par leur sincérité, leur gravité, leur engagement, mais aussi par l'évolution que l'on voit. Je vais pas raconter la fin.
Non, ne spoilez pas, s'il vous plaît. Ne divulgâchez pas.
Mais on voit que ce ne sont pas les mêmes, pas seulement, ou même pas d'abord dans leur rapport à la nature, mais dans leur rapport aux hommes, entre le début et la fin du film. À la fin, je crois que c'est Bella qui dit, on a pris quelques centimètres. Parce que tout ça a duré longtemps, ça m'a fait penser à la fin de Zazie dans le métro, quand elle disait, j'ai vieilli. Mais ils ont aussi gagné en humanité. Et la question que je voulais vous poser, en fait, est assez simple. C'est la suivante. C'est pas de savoir quel est le regard que vous portez sur cette jeunesse, mais c'est quel est le regard que vous pensez que cette jeunesse porte sur les adultes. À un moment, elle a une phrase terrible. Elle dit « On y consacre toute notre enfance, et il n'en sort rien ». Alors, est-ce qu'il nous reproche ce que nous avons fait hier ou d'abord ce que nous ne faisons pas aujourd'hui ?
Cyril Dion.
Déjà, c'est difficile de généraliser parce que c'est pas toute leur génération, ils sont pas homogènes et ils nous reprochent pas tous la même chose. Vipulan a dit tout le temps en interview en ce moment que je suis un vieux aussi et qu'il m'aime bien quand même.
L'honneur est sauf.
Ouais, c'est formidable. Ce que j'ai vu, en tout cas dans les grèves pour le climat, c'est que j'avais l'impression d'être face à des enfants qui ont l'impression que les adultes ne tiennent pas le cadre de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui tient le volant. C'est très angoissant. D'ailleurs, on parle beaucoup d'éco-anxiété.
Oui.
Cette éco-anxiété, pour moi, elle vient de là. C'est comme un enfant qui verrait ses parents perdre le contrôle et se dire, là, il n'y a plus personne qui gère. Et ce que dit Greta Thunberg, c'est ça. C'est, il y a un problème considérable. Les scientifiques nous le disent. On a l'impression qu'il est très bien circonscrit. Et personne ne semble s'en occuper vraiment. Personne ne semble proposer des solutions qui permettraient de véritablement apporter une réponse à la hauteur de la gravité. Et ça, c'est très angoissant. Enfin, je
même vous la nous. Ressentez cette angoisse vous personnellement.
Ben, moi, je suis anxieux de, je suis un anxieux. Mais
oui, mais vous avez fait un film qui s'appelle Demain. Votre collection chez Actes Sud s'appelle Domaine du possible. Donc
c'est justement
il y a
ça.
Une petite part d'optimisme malgré tout.
Non, c'est juste parce que je crois que tout ça, ce sont des dynamiques de mort. L'angoisse, c'est très lié à la peur de mourir. Et s'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui se sentent en harmonie, on en parlait avant l'émission avec les thèses de la collapsologie, qui sont très angoissés à cette idée-là, c'est bien parce qu'ils sont confrontés à cette idée de la mort. Et donc je pense qu'il faut opposer à ça des dynamiques de vie, donc des dynamiques de créativité, des dynamiques du vivant, et c'est pour ça qu'on les a emmenés aussi dans le monde vivant, voir des animaux, voir des biologistes, voir des gens formidables qui font des choses formidables, qui y trouvent du sens, qui sont passionnés par ça, parce que tout ça, c'est des dynamiques de vie.
Et voir des citoyens, on va donner tout de suite la parole à Corentin qui est avec nous dans la salle. Le mot déco-anxiété, est-ce qu'il résonne justement dans cette salle ici, la salle Robien à Saint-Brieuc? Je ne sais pas si c'est un sentiment largement partagé, si c'est quelque chose qui ne concerne que quelques-uns. Je vois des airs dubitatifs dans la salle, mais c'est vrai que c'est
juste pour vous donner juste pour vous donner une proportion, il y a eu une sorte d'étude de sondage qui a été fait. 75% des jeunes disaient qu'ils étaient inquiets pour l'avenir. Moi, je me suis retrouvé dans une salle au Grand Rex avec 2700 lycéens et collégiens, et je leur ai demandé qui se sent un peu inquiet par rapport à ces questions écologiques. C'était la quasi-totalité de la salle qui a levé la main.
La quasi-totalité de la salle.
Ben oui.
Qu'en pense justement Corentin Poibou? Bonjour. Merci d'être avec nous ici pour ce grand face-à-face XXL. Vous êtes juriste, vous serez peut-être avocat bientôt.
Oui, tout à fait. Et je suis aussi élu municipal à Saint-Brieuc.
Élu LREM.
C'est ça. Vous êtes dans une ville absolument formidable, qui a tous les atouts pour réussir et qui est le symbole aussi de ces villes qui souffrent, de ces villes qui sont en train de mourir. Et pourtant, je suis pas loin de penser que c'est l'une des créations les plus formidables que l'homme ait pu trouver en faveur de l'écologie et de la cohésion sociale. Vous êtes là, quelque part, du rond-point de Brésilet, où les Gilets jaunes s'étaient installés. Et on a été l'un des foyers les plus emblématiques en France sur cette thématique-là. Et ce qu'ils ont dit, c'était un cri du cœur extrêmement profond.
Saint-Brieuc, c'était l'une des capitales régionales, d'ailleurs, des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait. C'était la capitale en Bretagne, en tout cas, des Gilets jaunes, et elle a été extrêmement médiatisée à ce titre dans les médias nationaux pendant la crise. Et le cri du cœur qu'ils exprimaient aussi, c'était cette fracture sociale, mais qui correspond aussi à une fracture écologique, puisque on les envoie toujours plus loin, dans des lotissements en périphérie, et où on les emmène aussi toujours plus loin, où on voit des services publics. À côté, il y avait une CAF qui est partie, il y a l'hôpital qui est parti, les cliniques qui sont parties, des commerces qui ont quitté notre ville. Et tout ça, c'est lié aussi au bal des égoïsmes locaux. Puisque, évidemment, toutes les communes se battent pour avoir tous ces services, tous ces commerces, tous ces habitants. Saint-Brieuc a perdu 10 000 habitants, un quart de sa population. Et finalement, j'en viens à ma question. Oui. Et si la réalité, la vraie politique locale écologiste n'était pas une politique institutionnelle permettant de retrouver, de refaire vivre nos villes et de retrouver cette cohésion sociale et favoriser la protection de l'environnement?
Merci pour votre question, Corentin. Ce lien, justement, entre crise sociale et crise écologique, on allait évidemment y venir, Cyril Dion. Que lui répondez-vous?
On pourrait répondre plein de choses. Enfin, d'une part que c'est directement lié, c'est-à-dire que là où il y a des relations d'oppression, on va dire, sur les écosystèmes ou sur le monde vivant, il y a aussi souvent des relations d'oppression sur des humains. On a une scène, par exemple, dans le film, dans un élevage intensif de lapins, où on voit bien que ça pose des problèmes écologiques, mais que l'éleveur...
Décrivez-la juste pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire, parce que c'est un moment assez saisissant et où il y a une véritable prise de conscience, en fait, des deux ados que vous accompagnez.
On emmène Bella et Vipulan, qui ont 16 ans, qui sont urbains, qui sont véganes, dans un élevage intensif près de Nantes, de lapins. On rentre dans un hangar où il y a en gros 8000 lapins qui sont dans des cages. Chaque lapin a l'équivalent d'une feuille A4 pour vivre. Et ils sont dans un état de stupeur, voire même de dégoût, de colère. Et ils se mettent à discuter avec cet éleveur. Et au départ, c'est très frappant d'ailleurs, parce que dans les salles, il y a souvent des réactions assez vives, donc ou d'indignation, ou des gens qui rigolent tellement ils trouvent qu'il y a une forme d'absurdité dans cette situation. Parce que l'éleveur dit, bah oui, là, ils sont bien, ils ont à manger, ils ont à boire, la température est bonne, l'ambiance est très bonne. Et donc, Bella et Vipoulin qui disent, l'ambiance est très bonne, en voyant ces 8000 lapins dans des cages, ils comprennent pas bien ce qui se passe. Et petit à petit, il y a une forme de basculement qui se fait dans la perception du public, parce qu'on comprend que cet éleveur, il gagne 350 euros par mois, qu'il s'en sort pas, qu'il est endetté auprès de sa coopérative de telle façon qu'il ne parvient pas même à trouver d'autres débouchés professionnels. Et qu'il y a une violence sociale aussi dans tout ça. Ce qu'on peut voir aussi avec des employés des abattoirs. Et donc, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'endroits où la question écologique et la question sociale sont intimement liées. La plupart des gens qui sont les premières victimes à la fois du changement climatique ou de la pollution de l'air, par exemple dans les grandes villes, sont les gens qui vivent dans les quartiers les plus populaires. Les gens qui vivent en bordure du périphérique, c'est eux qui ont la double peine. Ils ont le bruit, ils ont la pollution, et en même temps, ils vivent souvent dans des logements qui sont pas formidables. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent on dit, mais comment est-ce qu'on va toucher ces personnes-là pour leur permettre d'être sensibilisées à la question écologique ?
Natacha Polony.
Juste pour finir là-dessus, ce qui est fou, c'est que 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les 10% les plus riches. Donc la priorité, c'est pas de toucher ces gens-là pour leur faire faire de l'écologie, la priorité, c'est d'aider ces gens-là. Et de toucher les plus riches pour que les plus riches, eux, fassent en sorte de réduire leur empreinte.
Il me semble que la difficulté qui est...
Voilà un élément de campagne présidentielle qui a l'air de réunir un large assentiment de la population de Saint-Brieuc.
Il me semble que la difficulté du sujet, et que souligne la question de Corentin, c'est qu'en fait, l'ensemble des phénomènes est lié. Mmh. C'est-à-dire que la question de, par exemple, la réduction de l'usage de la voiture est lié à l'urbanisme, qui est lié au modèle de développement fondé uniquement sur la grande distribution et la publicité, donc la consommation, qui est lié également à l'artificialisation des sols. Et c'est lié derrière, en effet, à la question de la répartition des richesses et de la façon dont on peut rééquilibrer. C'est lié également à la question de la production, parce qu'en fait, on ne peut pas réfléchir à ces questions-là si on ne pense pas au lieu où se produisent les richesses. La moitié des gaz à effet de serre français sont en fait produits par l'importation. Nous avons externalisé notre pollution. De telle sorte que simplement se dire que la planète va mal et qu'il faudrait lutter contre la disparition des espèces ne suffira pas si en effet on n'embarque pas l'ensemble de la population, mais non pas en les culpabilisant, non pas en leur disant « n'utilisez pas votre voiture », ils n'ont pas le choix.
Exactement.
Donc la question, c'est de savoir comment on joue sur le rôle du politique pour pouvoir repenser un urbanisme, une organisation, et même un échelon démocratique, puisqu'en fait, les problèmes d'urbanisme, d'installation, de grandes surfaces, c'était inclus dans la question de Corentin. C'est lié aussi aux politiques locales, à la concurrence entre bassins locaux. Et donc, il me semble que la difficulté qu'ont les politiques aujourd'hui, leur incapacité en fait à répondre, vient de là. C'est que c'est un système et qu'il faut le penser dans sa globalité.
Cyril Dion.
Exactement. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on essaie de montrer dans Animal. Culpabiliser les gens en leur expliquant qu'ils ne font pas assez et en leur remettant sur le dos le fait qu'il y a de la pollution plastique, qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre, non seulement ça ne suffit pas, mais il y a aussi une forme de perversité là-dedans parce que le problème est systémique. C'est pour ça que je parlais de risque.
Pourquoi de perversité ?
Perversité parce que je vous donne l'exemple du plastique. On a été sur ces plages à Bombay où effectivement c'est jonché de plastique, on a l'impression qu'on est dans des décharges à ciel ouvert.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant de plastique ? Parce qu'il y a du plastique qui est produit en permanence, c'est-à-dire que les gens vont acheter des produits qui sont suremballés de plastique. Ils n'ont pas de système de recyclage, ils ont très peu d'employés municipaux pour ramasser sur les plages, ils ont même très peu de poubelles. Et en l'occurrence, ce plastique, les industriels s'en déchargent sur eux, en leur disant « ben voilà, on vous le refile, quoi. Maintenant, faites-en ce que vous voulez ». Ils ne peuvent rien en faire. Ils n'ont pas la réponse structurelle pour ça. C'est pareil avec ce que vous venez de dire sur les transports. En France, même en France, on recycle 25 à 30% du plastique. Donc les personnes à qui vous vendez du plastique, qui de bonne foi vont le trier,
Oui.
Ils vont se dire, bon bah, ok, moi j'ai pas choisi que ça soit une bouteille en plastique, bon, on peut faire comme là, on peut avoir une gourde,
etc. On a des gourdes, mais... nous sommes vertueux aujourd'hui.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand vous allez dans un supermarché, quand même tout est emballé dans du plastique, donc après, vous dites, moi j'ai pas choisi que ça soit comme ça dans le supermarché, et je ne choisis pas non plus ce qui va devenir après. Donc là, il y a une vraie réponse structurelle. Cette réponse structurelle est effectivement conditionnée par des éléments de macroéconomie. Et ces éléments de macroéconomie sont pour moi conditionnés par un récit dont je parlais tout à l'heure, qui est ce fameux récit de la croissance, qui est aussi lié aux indicateurs qu'on se donne, c'est-à-dire au tableau de bord. Qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif ? Et c'est vraiment toute la conversation qu'on a avec Éloi Laurent au milieu du film sur... Est-ce qu'il ne faut pas repenser ces indicateurs ?
Qui est économiste et qui lui aussi est engagé pour essayer de reformuler une nouvelle histoire et un nouveau rapport à la nature. Gilles Finkelstein, et j'aimerais bien qu'on continue d'explorer justement l'impact des activités humaines sur la nature, puisque on a des signes très visibles ici à Saint-Brieuc et ailleurs en Bretagne.
Oui, peut-être pour prolonger la question que Corentin a posée tout à l'heure sur les gilets jaunes. Une des mesures qui a été à l'origine du mouvement, c'est pas la seule, mais sans doute l'élément principal, a été l'augmentation du prix de l'essence et la taxe carbone, où on voyait les difficultés de concilier une préoccupation environnementale et la justice sociale. Lorsque quelques mois après, vous avez été un des garants, Ali Badou le rappelait tout à l'heure, de la Convention citoyenne pour le climat, cette question de la taxe carbone est revenue dans le débat. Tous les experts qui ont été auditionnés de manière unanime disaient c'est le meilleur outil pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de CO2 parce que c'est le plus simple plutôt que de multiplier les réglementations domaine par domaine. Et de manière tout aussi unanime ou à peu près, les citoyens ont dit non merci. Quelles leçons vous en tirez ?
Cyril Dion.
En fait... Ce qui était particulièrement intéressant dans la Convention citoyenne, et la raison même pour laquelle j'ai proposé à Emmanuel Macron, avec les Gilets citoyens, d'entreprendre cette initiative, c'est que, comme le disait Natacha, le problème est systémique, et il y a fort peu de chances que les responsables politiques s'en sortent tout seuls. C'est-à-dire que les mesures qui devraient être prises sont parfois impopulaires, donc c'est le cas de la taxe carbone, donc ils vont avoir tendance à ne pas les prendre parce qu'ils sont quand même dans la perspective de se faire réélire.
Ou que les citoyens n'en veulent pas.
Mais c'est pour ça qu'elles sont impopulaires. Et en l'occurrence, parfois, contraire à des intérêts économiques qui sont aussi poreux avec le pouvoir politique. Donc ce que j'avais eu comme conversation avec Emmanuel Macron, c'était, il me semble qu'il faut remettre le problème aux Français. C'est-à-dire qu'il faut que les Français se mettent ensemble, fassent un diagnostic commun de la situation, et ensemble élaborent des mesures et des propositions qui puissent nous permettre de sortir de là. C'est-à-dire que les Français eux-mêmes n'aient pas le sentiment qu'on leur impose quelque chose d'en haut, mais qu'ils aient le sentiment que c'est eux qui choisissent et qui décident de quelle façon on pourrait y parvenir. Pour le cas de la taxe carbone en particulier, ce qui s'est passé, très clairement, pour avoir été à l'intérieur de la Convention citoyenne, c'est que les citoyens avaient l'impression que le pouvoir politique se déchargeait sur eux de cette contrainte. C'est-à-dire, bon bah, en gros, on n'a pas réussi à le faire, oui. Donc on vous refile le bébé, et c'est vous qui allez le faire, et c'est sur vous que ça va retomber ensuite. Et ils se sont dit, mais ils nous prennent vraiment pour des bleus, donc on va surtout pas faire ça. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 149 propositions qui, malgré tout, allaient infiniment plus loin que ce que tous les gouvernements ont proposé ces 30 dernières années. Oui. Donc ce qui est quand même la preuve que la démocratie délibérative, et que la démocratie comme moyen de s'en sortir, ça peut fonctionner, si tant est, évidemment, qu'il y ait des règles du jeu claires, et qu'ensuite le processus ne soit pas saboté par ses commanditaires.
Avant de prendre une question du public, d'un mot, qui, je ne vais pas, le vote est secret, donc je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais qui porte le mieux l'idéal, le combat écologique dans ce moment très particulier, ce moment de haute intensité politique et la campagne présidentielle, Cyril Dion ?
Il y a un certain nombre de candidats aujourd'hui qui portent des programmes écologiques qui sont très ambitieux, enfin, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Yannick Jadot, que ce soit même Anne Hidalgo dans une certaine mesure. Ils proposent des choses qui vont vraiment dans le bon sens. La question maintenant, c'est comment ouvrir un espace politique dans lequel ces propositions-là peuvent devenir, comme je le disais tout à l'heure, un récit. Et je vais le formuler autrement. Pour moi, le grand problème de l'élection présidentielle, c'est qu'en gros, ça se transforme un peu en course de petits chevaux. C'est-à-dire que chacun vient essayer de faire une surenchère de propositions que la plupart du temps il ne tient pas. en faisant croire que si vous allez voter pour moi, il va se passer ci, il va se passer ça. Moi, j'attendrais vraiment de candidats juste une ambition démocratique beaucoup plus forte en disant voilà le cap que je poursuis.
Oui.
J'ai bien conscience que je ne vais pas y arriver tout seul. En revanche, je vais mettre en place des modalités démocratiques qui vont nous permettre de le faire ensemble et qui vont vous permettre à vous, Français, de vous prononcer sur des sujets qui sont très épineux et qui nous permettraient de sortir de là.
Il reste 5 mois et on peut rêver, le pire n'est pas certain. Cyril Dion va justement retourner dans la salle. C'est une suggestion, mais qui a l'air d'apporter, de réunir beaucoup d'assentiments. J'aimerais justement qu'on, puisqu'on est en Bretagne et qu'on est à Saint-Brieuc, qu'on entende Annie Le Guillou. Bonjour Annie, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de Halte aux Marées Vertes et vous êtes secrétaire de COBEN, qui est la Confédération Bretonne pour l'Environnement et la Nature. Et en Bretagne, vous êtes largement applaudi. On sait, et on le sait partout ailleurs en France, que les marées vertes se succèdent malgré différents plans d'action. Et 2021 a même été une année record d'échouage d'algues vertes. Pourquoi est-ce que, justement, ces différentes actions ne marchent pas, Annie ? Et est-ce que vous voyez une manière d'enrayer ce phénomène-là ?
Alors, nos auditeurs savent très certainement que les algues vertes sont dues aux excès d'azote et donc de nitrate issus des déjections animales et des engrais chimiques. Et il est vrai qu'en Bretagne, la baignoire d'azote déborde, comme en témoignent les marées vertes vomies sur les plages. Depuis 30 ans, l'État, en collaboration avec la profession agricole, a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour relever ici et là les bords de la baignoire.
L'image est forte. Donc, la baignoire est pleine, mais on remonte
exactement.
Les bords de la baignoire.
Comment ? Par des règles très complexes, tout un dispositif réglementaire très sophistiqué pour encadrer par exemple l'épandage des lisiers. Mais les ingénieurs en mécanique, chimie et biologie ont été priés également de faire preuve d'une grande inventivité pour contenir les fuites d'azote. Mais toutes ces mesures ont atteint leurs limites. La preuve en est, le taux de nitrate dans les rivières bretonnes en moyenne ne baisse plus depuis 2014. Pourquoi ?
Depuis près de 20
depuis
près
2014, la moyenne ne baisse plus, on est à 31 mg. Nous sommes montés en 92-93 à 53 mg. Nous n'avons fait que la moitié du chemin, puisqu'il faut redescendre à 10 mg de nitrate, selon l'IFREMER, pour espérer une baisse de moitié au moins des algues vertes. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir s'occuper, non pas des bords de la baignoire, mais du débit du robinet. De l'arrivée, de l'importation massive d'azote, puisque la Bretagne, avec ses 110 millions d'animaux d'élevage, importe massivement la nourriture. Elle ne nourrit ses animaux que pour moitié sur ses terres. Et donc, nous importons massivement du soja d'Amérique latine, synonyme de déforestation, d'OGM et de pesticides. Donc, il va falloir arrêter d'importer du soja. Et d'ailleurs, c'est tellement d'actualité, j'ai entendu cette semaine que l'Europe envisageait d'interdire l'importation de soja. Donc, il faut d'une agriculture hors sol, il va falloir revenir à une agriculture liée au sol. Et vous savez que les Pays-Bas nous en montrent le chemin, puisqu'ils ont décidé récemment de diminuer de 30% leur cheptel.
Et donc
nous disons
moitié
moins de cheptel et beaucoup plus de paysans.
Moins de cheptel, plus de paysans, c'est moins une question qu'une intervention. Natacha est très concernée par le sujet. D'abord Cyril Dion, puis Natacha Polonier.
On est vraiment exactement dans la configuration dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que on cherche à faire de la croissance économique à tout prix avec un indicateur qui est aveugle, c'est-à-dire sans se demander les conséquences que ça peut avoir. Donc toujours plus d'élevage intensif, toujours plus d'engrais chimiques qu'on épand. À un moment, l'écosystème ne peut pas encaisser tout ça. Donc comme il peut pas encaisser, au bout d'un moment, il finit par y avoir des déséquilibres qui sont graves, qui ont causé la vie d'un certain nombre de personnes et d'animaux, qui ont des désagréments considérables en termes d'odeur, en termes de biodiversité. Et la seule solution, c'est
L'émission Envoyée Spéciale avait même parlé de plages empoisonnées. Le mot est extrêmement fort.
Absolument. Il y a une enquête qui a été faite pendant des années sur la question des algues vertes qui montre que c'est assez terrifiant. Et qu'est-ce qui fait que depuis 30 ans on n'y arrive pas ? Le fait que des intérêts économiques pèsent de tout leur poids pour semer le doute sur les études scientifiques qui sont faites pour montrer les désagréments à la fois pour les personnes et pour les écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate dans toutes les industries. On le voit pour le changement climatique, on voit que Total a fait ça, que BP a fait ça, que Shell a fait ça. On le voit dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie chimique. On le voit dans la chimie du téflon. On se souvient de ce fameux film Dark Waters de Todd Haynes qui racontait ça. On l'a vu dans l'industrie du tabac. Mm-hmm. Je veux dire, là aussi, on a un problème démocratique considérable. C'est-à-dire que si les décisions publiques sont largement orientées par des intérêts privés qui, pendant des décennies, finissent par l'emporter sur l'intérêt général, évidemment, on ne peut pas s'en sortir.
Natacha Polony.
Je pense qu'on ne s'en sortira pas non plus si on croit qu'il y a des coupables qui seraient les paysans qui font de l'élevage industriel. D'ailleurs, c'est ce que montre très bien votre, justement, la scène dont nous avons parlé avec l'éleveur de lapins, parce que c'est toujours le même processus. C'est-à-dire qu'on a des paysans à qui l'ensemble du système a dit « Faites du bas de gamme, absolument, faites de la concentration et vous serez toujours meilleur sur le marché. » Et là, dans la filière porc, ils se retrouvent avec des fermes-usines, notamment en Allemagne de l'Est, avec des ouvriers venus d'Ukraine, de Pologne, qui font encore plus bas de gamme, qui font encore moins cher. Et non seulement ils se retrouvent endettés avec un système qui pollue, mais en plus ils ne s'en sortent pas. Donc comment sortir de là ? Le problème n'est pas seulement d'interdire, en effet, les pesticides, de réguler l'ensemble de l'usage de ces intrants chimiques et d'interdire d'un coup l'élevage industriel. La question, c'est de réfléchir à tout le système qui provoque ça. Parce que pourquoi on fait du bas de gamme ? On fait du bas de gamme parce qu'il y a de la grande distribution qui dit « si vous ne produisez pas du porc peu cher, eh bien j'irai me fournir ailleurs ». C'est parce qu'on a des marchés publics qui préfèrent, qui regardent uniquement le prix et qui vont aller acheter de toute façon de la viande de porc la moins chère possible. Donc tant qu'on ne réfléchira pas à l'usage, à tout le code des marchés publics, tant qu'on ne réfléchira pas à la régulation de la grande distribution, donc des traités de libre-échange, eh bien là aussi, on se contentera de montrer du doigt des gens qui eux-mêmes sont étranglés par ce système, avec un syndicat majoritaire qui maintient à toute force ce système, au lieu d'essayer de préparer la FNSEA, au lieu de préparer la transition. Non, et je pense que c'est un travail qui doit se faire tous ensemble.
Vous êtes applaudis et je tiens quand même, malgré tout, à dire que nous avons invité des représentants de la FNSEA pour qu'ils puissent vous porter la contradiction, justifier aussi leur modèle économique et les raisons pour lesquelles ils pratiquent l'agriculture comme ils le font. Bon, ils n'ont pas souhaité participer à ce débat. En revanche, il y a des membres du collectif Bretagne contre les fermes-usines ici dans le public et on vous entendra tout à l'heure.
Juste un mot. On parle en général d'agribashing. Ce que je viens de faire n'est pas de l'agribashing. Je parle au contraire au nom de ces paysans qui sont les premières victimes de ce système et qui se pendent à cause de ça. Donc il faut les aider à s'en sortir. Absolument. Et c'est à l'ensemble du système politique et démocratique de le faire.
Gilles Finkelstein, deux minutes avant le journal de Frédéric Barrère.
Oui, la question des algues vertes est en fait très symptomatique de problèmes beaucoup plus vastes. Quand on regarde l'origine, il y a ce que vous avez évoqué, les nitrates, mais ça fait système avec la crise climatique parce que c'est amplifié par le réchauffement et par les précipitations. On l'a vu notamment cette année. Et quand on regarde les solutions, on voit que, comme très souvent, on s'est beaucoup concentré sur l'aval, c'est-à-dire qu'on va donner des subventions pour faire du ramassage. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer sur une question. En fait, vous parliez tout à l'heure,
rapidement,
dans le livre, de la question de la croissance et de ce que disait Éloi Laurent, qui expliquait à juste titre les limites, parfois même l'absurdité que l'on connaît tous de cet indicateur qu'est la croissance du PIB, en montrant qu'il y avait des évolutions divergentes entre la croissance et le bien-être, et en montrant notamment ce qui se passait aux États-Unis. Ma question, en fait, est la suivante. Est-ce que ce n'est pas une vision qui est trop occidentalo-centrée? C'est-à-dire que le problème...
Il nous reste vraiment une minute avant le journal, Gilles. Il faut être plus concis.
Le problème n'est-il pas précisément que ce n'est pas vrai, ou ce n'est largement pas vrai dans les pays en développement, dont les 20 dernières années se sont soldées par un accroissement de la croissance, mais aussi du bien-être, de la scolarité, de la santé, et que la difficulté collective que l'on a,
Gilles,
c'est de les faire sortir de ce modèle de croissance.
Et une précision pour nos auditeurs, Éloi Laurent est donc économiste, et il est donc contre le modèle de la croissance, il est pour sortir de la croissance. Un mot, Cyril Dion ?
Ça va vraiment être un mot très court, mais... En Inde ou en Chine, on a déjà 1 200 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Ils sont déjà en train de se dire qu'il faut qu'ils réensauvagent tout un tas de leur territoire. La Chine a décidé de réensauvager 30% de son territoire. Ils sont déjà en train d'interdire les voitures thermiques dans le centre de Pékin et de Shanghai. Il y a des listes d'attente interminables pour avoir une voiture thermique parce que tout simplement, ça a déjà des conséquences trop graves sur la santé des gens.
Le grand face-à-face. Émission spéciale, en direct et en public, à Saint-Brieuc, Ali Badou.
Le grand face-à-face XXL en public cette semaine à Saint-Brieuc. Le grand face-à-face continue. Merci infiniment au public très nombreux qui est avec nous pour assister, pour participer aussi à l'émission. Vous savez que les micros circulent dans la salle. Je suis toujours en compagnie de mes camarades Natacha et Gilles, et nous débattons de l'écologie avec un grand invité qui est militant écologiste, qui est réalisateur, dont le dernier film, le documentaire Animal, vient de sortir en salle. Un film qui est accompagné d'un livre publié chez Actes Sud, Animal, sous-titre « Chaque génération a son combat, voici le nôtre ». On a encore beaucoup de questions à vous poser, de débats à mener avec vous, Cyril Dion, mais je le disais juste avant le journal de 13h, le combat écologique, c'est parfois un combat qui est risqué. En l'occurrence, j'aimerais justement qu'on entende et qu'on donne la parole à une journaliste de RBK, je ne parle pas breton, alors aidez-moi Morgane RKB. Large. Bonjour, RKB, mais c'est Radio Kreisbreise.
C'est ça.
Je le prononce pas trop mal.
Non, c'est bien Radio Kreisbreise, Radio Centre-Bretagne.
Et vous animez La Petite Lanterne, c'est une émission de reportage sur la Bretagne rurale. Racontez-nous justement votre histoire, puisque vous êtes devenu d'une certaine manière un symbole, un vrai symbole pour, alors j'allais dire la liberté d'expression, mais la liberté d'informer, en fait, tout simplement, sur l'impact de certaines activités humaines sur la nature, pour ne pas dire l'environnement, et ne pas fâcher Cyril Lyon.
Alors, je suis pas la seule, hein. Il y a pas mal de gens qui ont des embêtements. Les journalistes qui travaillent dans l'environnement, c'est de plus en plus difficile. Alors, moi, je suis journaliste locale. J'ai le grand tort de travailler là où je vis. Ce qui peut poser des problèmes.
Qu'on comprenne.
Voilà. Alors moi, je travaille sur le domaine.
Sur l'agro-industrie, par exemple.
Sur l'agriculture et l'environnement, de manière générale, depuis 20 ans, quand même.
Et la santé des employés de ce secteur.
Par exemple, oui. Ouais. On rencontre d'enjeux qui traversent le territoire en essayant aussi de donner la parole au contradictoire, mais vous voyez bien que c'est difficile de faire intervenir le contradictoire. Vous avez invité la FNSEA, elle n'est pas là.
Et je vous assure que n'est pas le seul syndicat que nous avons invité, puisque la liste est longue de ceux que l'équipe du Grand Face à Face a contacté pour cette émission ici à Saint-Brieuc.
Voilà. Nous, en tout cas, avec la radio avec laquelle je travaille, on a subi en premier lieu des pressions financières parce qu'on est dépendant des subventions. On a perdu des subventions de certaines communes, notamment des communes qui portaient des projets agricoles très intensifs, genre Porcherie, qui pendant les émissions, les maires téléphonaient pour nous dire « votre subvention, c'est terminé ». Ensuite, les pressions, elles se sont un peu...
Aussi simplement que ça.
Aussi simplement que ça, et de manière très décomplexée, c'est arrivé à deux reprises. On assumait de se servir de l'argent public pour récompenser ou punir une parole qui plaisait ou déplaisait. Donc moi j'ai eu des problèmes davantage personnels. On a ouvert les clôtures de mes champs pour mettre mes animaux en divagation, ce qui est une forme de discrédit très habituel en campagne.
Votre chien a été empoisonné, je crois.
Oui, je soupçonne que mon chien ait été empoisonné. Il a été intoxiqué, il a failli mourir en janvier. Ensuite,
on a dévissé les roues de votre voiture, ce qui est extrêmement dangereux.
Voilà, j'ai retrouvé ma voiture avec des boulons manquants, ce qui m'a fait vraiment très peur. Et en fait, le tort que j'ai, tout à l'heure, Cyril Lyon a parlé, et vous avez tous parlé d'Éric Zemmour, en parlant d'un récit. Eh bien, nous, journalistes qui tentons de travailler sur les problématiques environnementales en Bretagne, on vient casser un roman régional agricole auquel tout le monde agricole est extrêmement attaché. C'est quasiment un crime de faire ça. On se retrouve en face d'agriculteurs qui sont sur la défensive, et on peut les comprendre. Mais le problème, ce sont quand même les industriels, les coopératives, les élus qui sont en même temps élus, mais aussi patrons de coopératives, maires de la commune. Enfin, on est dans un monde très particulier. Et si on n'a pas envie qu'il y ait de journalistes, il faut le dire, quoi. Il y a aujourd'hui 4 communicants pour un journaliste en France. Et la presse professionnelle agricole, elle est aux mains intégralement des grands groupes, des syndicats et aujourd'hui, et des coopératives. Donc,
Natacha Polony et Cyril Lion acquiescent pour ceux qui n'ont pas l'image.
Donc c'est un réel problème. Est-ce qu'on va faire une société où il n'y aura pas de journalistes ? Après, j'ai une dernière chose à dire. Moi, je suis très inquiète d'une société d'adultes qui laisse le combat écologique à des adolescents et à des enfants. Parce que c'est se défausser sur eux. Et en plus, ces adultes-là, parfois, se moquent de ces adolescents qui sont extrêmement sincères. Et pour moi, qui font un travail extraordinaire.
Merci infiniment pour votre intervention, Morgane Large. Cyril Lion.
Absolument d'accord avec vous. Et l'idée d'Animal, pour ceux qui le verront, c'est absolument pas ça. Hein. C'est-à-dire que on essaie de regarder le monde à travers leurs yeux, justement parce que ils ont l'âge qu'ils ont une sorte de distance.
C'est deux adolescents de 16 ans.
Voilà, on a une sorte de distance quand on a 16 ans où on n'est pas encore dans une forme de rationalisation de tous ces processus-là.
Et on n'a pas le droit de vote, Cyril Dion. Et en l'occurrence, les jeunes sont les grands absents de la vie politique.
On n'a pas le droit de vote, mais je suis complètement
et
d'accord.
Et ils peuvent être concernés ou mobilisés par la question écologique, mais ils ne vont pas voter. C'est ça là aussi la réalité des choses.
Oui, il y en a une bonne partie qui va pas voter. En l'occurrence, ils ont parfois le sentiment que voter ne sert à rien. Mais ils sont pas les seuls. Je veux dire, il y a des adultes aussi qui ont le sentiment que voter ne sert à rien. Là encore, on parlait d'enjeux démocratiques tout à l'heure. En fait, on ne parle que de ça depuis tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire des grands médias ou des médias locaux qui appartiennent à des industriels, des responsables politiques locaux ou nationaux qui sont liés à des intérêts économiques puissants, personnes qui vont voter et qui se disent « mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'aille voter si on me fait des promesses qu'on ne les tient pas ?» ou si les personnes pour qui je vote ensuite écoutent plus les industriels que ma voix, moi, de citoyen. On est toujours en train de tourner là-dedans. Or, il se trouve qu'on est tous, on a tous très envie de s'impliquer en politique. Moi, je le vois avec les jeunes. Ce que je veux dire, c'est que la question politique, c'est-à-dire la question de la cité, la question de quel est notre destin collectif, comment est-ce qu'on peut s'impliquer pour faire en sorte que ça aille mieux là où on vit ou dans notre pays, ça intéresse beaucoup de gens. On l'avait vu avec Demain, on le voit avec Animal, on le voit dans les grèves pour le climat avec les plus jeunes. Maintenant, dans quel espace est-ce que ça peut s'inscrire ça ? C'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre notre énergie ? Et ce dont on a besoin, c'est évidemment d'avoir des initiatives locales, évidemment d'avoir des associations, évidemment d'avoir des entrepreneurs qui font des choses nouvelles, mais on a besoin de créer des espaces politiques nouveaux où ces gens-là puissent venir mettre leur énergie au service de la démocratie, au service du bien commun. Or, pour le moment, ils ont l'impression que cet espace n'existe pas et qu'il est trusté par des gens qui, en l'occurrence, se cooptent les uns les autres. Je suis désolé.
C'est pas mon rôle de débattre, mais c'est vrai que malgré tout, on vit dans une démocratie et c'est vrai que si on veut faire changer les choses, enfin, je vais pas poursuivre puisque c'est à Natacha et Gilles de vous apporter la contradiction, Natacha Polony et Gilles Finkelstein.
Est-ce que notre rôle d'adulte n'est pas aussi de dépasser ce qui est la colère, l'indignation, parfois le sentiment d'impuissance, pour entrer dans la complexité des choses? Parce que ce qu'on voit depuis le début de cette émission, c'est la complexité. Par exemple, c'est pour ça que j'insistais sur les fermes-usines allemandes qui sont en train de ruiner la filière porcine française. De même, je pourrais vous citer l'exemple des producteurs de lentilles du Berry qui ont des normes environnementales que moi je trouve nécessaires, mais eux, ils commencent à les détester parce que, du coup, l'hôpital du coin achète de la lentille canadienne moins chère parce qu'elle n'a pas de normes environnementales. On marche sur la tête. Et donc, ma question, c'est celle de la possibilité, de la nécessité de penser en fait la production. Parce que ce soit pour l'agroalimentaire, que ce soit pour tous les produits industriels qui sont dans nos maisons, la question c'est où est-ce qu'on produit et comment. Et c'est en fait celle de la réindustrialisation. Dans le film, on voit l'exemple merveilleux du Costa Rica qui a reconstitué sa forêt et qui du coup s'appuie sur la défense de la biodiversité et le tourisme. Mais est-ce que c'est une solution de s'appuyer sur le tourisme, c'est-à-dire sur des avions ? Est-ce que la question, c'est pas comment on reproduit et comment on fait une industrie propre, en fait, et une agriculture propre ?
Si, je suis complètement d'accord avec vous. D'une part, je suis d'accord avec vous.
D'accord avec Natacha Polony.
Mais je suis navré aujourd'hui, je suis d'accord, quoi.
Okay. Non, mais ça fait partie aussi de mon étonnement, moi, aujourd'hui.
Mais pourquoi?
Non, je ne sais pas.
Il se passe des trucs.
Il se passe des trucs.
Mais.
Vous savez, ça fait longtemps que je défends la notion de décroissance en expliquant que c'est pas un gros mot.
Non mais fondamentalement, on a besoin d'aller vers la complexité et j'espère qu'Animal fait ça. C'est-à-dire qu'on a essayé d'emmener Bella Evipoulan dans un chemin où il découvre la complexité.
Les deux adolescents et donc...
Oui, on a besoin de... Oui, on a besoin de s'enraciner sur les territoires. Oui, on a besoin de repenser la façon dont on produit. Le Costa Rica est effectivement un exemple qui s'est basé sur le tourisme. Comment est-ce qu'on peut faire ce tourisme localement? Moi, je rêve qu'à côté de chez moi, on ait des forêts qui soient réensauvagées et que je puisse aller avec mes enfants voir de la faune sauvage et je suis prêt à payer pour ça. Plutôt que d'aller au parc Astérix.
Enfin, vous ne verrez jamais de singes et la devise du Costa Rica, pura vida, c'est loin de liberté, égalité, fraternité.
Mais même ici, c'est absolument extraordinaire de voir des chevreuils, de voir des marcassins, de voir des oiseaux de nuit, de voir des écureuils. Les enfants, ils sont absolument fascinés par ça.
Et il y en a d'ailleurs avec nous dans le public. J'aimerais les applaudir puisqu'après tout, on parle d'eux et de leur avenir et de cette génération dont vous parlez, cette génération qui a son combat. Gilles Finkelstein.
Alors précisément, si on ne veut pas laisser à cette génération-là la responsabilité de tout ce qu'il y a à faire et que les adultes assument leur part de responsabilité qui est immense, je crois que beaucoup de gens se posent la question, deux questions très simples. C'est que peut-on faire? Et à quoi ça sert? Que peut-on faire? Je vais vous dire pourquoi je retranscris cette question. J'ai été très frappé à la fois de la prise de conscience, vous l'évoquiez tout à l'heure, très forte, en France comme ailleurs, relativement récente. C'est la première fois que dans une campagne présidentielle, dans la hiérarchie des préoccupations, les questions environnementales arrivent aussi haut. Et dans le même temps, et plus qu'ailleurs, j'ai vu une enquête passionnante qui a été faite dans 40 pays. Vous avez 8% des Français qui disent « je sais précisément ce que je dois faire, moi, pour lutter contre le réchauffement climatique ». Donc, que faut-il faire? Cette question n'est pas si évidente. Et à quoi ça sert? Vous dites vous-même dans l'autre livre que vous publiez aujourd'hui, là, le petit manuel de résistance contemporaine.
C'est la version poche d'un livre qui avait fait date, justement.
Vous citez une étude qui a été faite par Carbone 4 en 2019 et qui montre que si tout le monde faisait tout ce qui est nécessaire de faire, ça ne résoudrait que 25% des problèmes. Ce qui, quand on regarde ce chiffre-là, peut être un motif de découragement, ce qui renvoie à la question de Natacha tout à l'heure et sur les responsabilités systémiques.
Cyril Dion.
Oui, en fait, 75% des émissions sont structurelles. Donc, ces émissions-là ne peuvent se résoudre que par des lois, par des changements dans nos modèles économiques. Et donc, la question, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous peut parvenir à avoir de l'influence sur ces trajectoires et sur ces structures? Il peut avoir de l'influence en votant, comme on le disait tout à l'heure. Il peut avoir de l'influence en achetant ou en n'achetant pas. Il peut avoir de l'influence en regardant où il met son épargne ou il ne la met pas. C'est-à-dire aujourd'hui avoir son argent dans une banque comme la BNP ou comme le Crédit Agricole qui ont toujours des investissements massifs dans les énergies fossiles, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il vaut mieux mettre son épargne dans des banques qui investissent cette épargne dans de l'économie sociale et solidaire, dans des projets de transition écologique, etc. On peut avoir de l'influence en créant des rapports de force. Ces rapports de force peuvent se faire sur le terrain politique, ils peuvent se faire dans la rue, ils peuvent se faire dans les tribunaux. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec l'affaire du siècle, en attaquant l'État en justice pour inaction face au changement climatique. Ils peuvent se faire...
Ça s'est soldé par un échec, Cyril Dion.
Ben non, l'État a été condamné, en fait, pour inaction, et il est sommé il est sommé d'ici 2022 à réduire de 15 millions de tonnes ses émissions, en plus de tenir ses objectifs. C'est ce que le tribunal a décidé. Donc après, peut-être que l'État ne le fera pas, mais là, ça pose aussi un problème démocratique. C'est-à-dire qu'on se dit, si le tribunal condamne l'État à tenir ses objectifs climatiques et que l'État ne le fait toujours pas, il faut faire quoi, ultimement? C'est-à-dire que vous disiez, on est en démocratie, je suis désolé, on est en démocratie. On peut quand même...
Je suis pas désolé, je suis heureux d'être en démocratie.
Moi aussi, mais moi, je serais heureux d'être dans une démocratie plus aboutiste. Et dans une démocratie, on n'a pas besoin d'aller devant les tribunaux pour que l'État respecte les engagements qu'il s'est lui-même donné pour protéger sa population.
Et du coup, vous devriez vous présenter à la présidentielle, en tout cas. C'est vrai que vos propos recueillent un large écho avant de parler d'une question très particulière qui est liée à la mer, qui est liée à la transition énergétique. qui doit porter l'essentiel de l'effort? J'aimerais juste que vous nous le précisiez. Est-ce que c'est justement l'État? Est-ce que ce sont les multinationales et le système économique et de production capitaliste, techno-industriel qui est le nôtre? Est-ce que c'est à chacun d'entre nous, quand on distinguait entre les générations, est-ce que, par exemple, il faut limiter la consommation d'Internet, dire aux plus jeunes arrêtez de jouer à Fortnite et de streamer des séries? Là, vous aurez plus de mal, à mon avis.
J'ai des ados à la maison, je sais ce que c'est. En l'occurrence, ceux qui ont besoin de porter le plus d'efforts, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt les plus riches, c'est-à-dire ceux qui consomment le plus. Parmi les entreprises, il y a une étude qui a été faite aussi il y a quelques années par une ONG anglaise qui montrait que 70% des émissions de gaz à effet de serre étaient le fait d'une centaine d'entreprises dans le monde qui sont majoritairement en fait des entreprises qui travaillent dans le charbon ou dans le pétrole. Tout ça en fait se produit parce que il y a des investissements qui changent d'endroit. C'est ce qu'on se disait, c'est que là où va l'argent, en gros, va l'activité économique. Et là où va l'activité économique, en règle générale, vont les responsables politiques, puisqu'ils ont tendance à chercher à faire du développement, à faire de la croissance. Donc ce dont on a besoin, c'est de divertir ces flux économiques le plus rapidement possible, ces flux financiers, pour qu'ils aillent irriguer une autre économie. Mais pour que les élus puissent avoir envie de le faire, il faut non seulement qu'il y ait un vaste mouvement culturel et un vaste mouvement dans la population qui se fasse. Et c'est pour ça que c'est très important que chacun d'entre nous agisse à son échelle. C'est pas que pour l'impact direct que ça a, c'est pour le changement culturel que ça occasionne et le signal que ça envoie aux industriels et aux responsables politiques. Et puis, c'est nécessaire que ça se traduise, comme je le disais tout à l'heure, par des indicateurs. C'est-à-dire qu'on puisse se dire quel est l'objectif. Parce que pour l'instant, l'indicateur, pour toutes les entreprises, même si elles sont de bonne volonté, ça reste leur rentabilité,
oui, bien sûr, le profit,
et leur croissance économique et leur profit. Donc si demain on décide collectivement que les indicateurs, c'est ce qu'on essaye de raconter dans Animal avec l'exemple de la Nouvelle-Zélande, que par exemple la santé humaine ou la santé des enfants prime sur la question économique et sur la croissance du PIB, évidemment ça oriente mécaniquement nos sociétés dans un autre sens.
Il y a une question, vous êtes applaudi et vive la Nouvelle-Zélande, là aussi. Je plaisante, mais il y a une question qu'on ne peut pas ne pas aborder, puisque quand vous parliez des responsables politiques, j'étais un peu excessif et caricatural tout à l'heure en disant que l'écologie était une question largement absente du débat politique, puisque nombreux sont ceux qui se sont exprimés sur la transition énergétique, et en l'occurrence sur la manière dont nous pourrions sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Est-ce qu'il faut donner une grande part au nucléaire? Et il y a ici, en Bretagne, une question qui se pose, c'est celle évidemment des éoliennes. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le vice-président de la région Bretagne en charge de la mer, Daniel Cueff. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes affronté à un sujet qui est compliqué et qui divise au sein même du camp des écologistes et de ceux qui sont soucieux de la préservation de la nature. C'est comment organiser une concertation pour créer un parc d'éoliennes, par exemple, ici à Saint-Brieuc.
Le problème est au départ assez démocratique, je dirais, parce que contrairement au Danemark, par exemple, qui en 1975, à la faveur du choc pétrolier, a fait un débat très important qui a duré 3 ans, où ils ont pris des décisions. 1, qu'on allait se passer du nucléaire. 2, qu'on n'allait pas acheter du nucléaire à ses voisins. Et 3, qu'on allait avancer vers les énergies renouvelables. Ici, c'est l'État qui décide d'un certain
nombre. Enfin, ils n'ont pas renoncé aux énergies fossiles, pour le coup.
Non, mais ils vont y arriver très progressivement. Peut-être aussi parce qu'ils avaient la chance de ne pas avoir une industrie automobile. Bon, il y avait des facilités. Mais ici, en Bretagne, nous sommes donc devant une situation où l'État décide de la politique énergétique. Nous soutenons cette politique énergétique à partir du moment où elle est renouvelable. Puisque la Bretagne, vous le savez, s'est battue beaucoup contre le nucléaire, et ça a été une de ces révoltes bretonnes qui a compté dans l'histoire de l'écologie.
Oui.
Donc aujourd'hui, on essaye de pousser la question de la production d'énergie électrique avec quelque chose d'extraordinaire qu'il y a en Bretagne, c'est le vent. Mais face à ça, nous avons des oppositions importantes.
Mais expliquez-nous, Daniel Cueff, pourquoi est-ce que l'éolienne est devenue un symbole? Et je ne parle pas uniquement en termes esthétiques, parce que ça abîmerait les paysages. Là, en l'occurrence, on parle de parc d'éoliennes en mer en plus. Mais pourquoi est-ce que ça peut diviser? Pourquoi est-ce que ça peut susciter de la controverse?
Ben c'est étonnant, parce que figurez-vous qu'il y a 10 ans, il y a eu un débat très important, ici à Saint-Brieuc, où il y avait un enthousiasme pour cette énergie, y compris des pêcheurs. Puis le temps a passé, et le soupçon s'est installé. Et donc les oppositions...
Certains écologistes disent que ça peut créer de la pollution sonore, par exemple, que ça a un impact sur la vie animale marine.
Alors ça, ce sont des faux écologistes.
Ah.
Ce sont des gens qui viennent, si vous voulez, avec un bateau, un petit zodiaque là qui trempe dans l'eau une sorte de bruit et qui disent voilà, les coquilles Saint-Jacques vont vivre dans une discothèque. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est épouvantable parce que ça passe dans la presse et que c'est ça que les gens pensent que ça va être. Donc nous avons en région la volonté, si vous voulez, d'inventer à l'occasion de ce parc éolien de la baie de Saint-Brieuc un nouvel indicateur. Au lieu du PIB, de remplacer ça par un indicateur breton de prospérité durable où ce parc ne doit avoir aucun impact négatif ni sur la pêche, ni sur la biodiversité. Et nous allons y arriver.
Cyril Lyon.
Enfin, l'éolien, c'est typiquement le sujet où on voit bien que on a besoin de plus de concertation, on a besoin d'associer les populations locales aux endroits où on va implanter des éoliennes, ce qu'ont très bien réussi à faire les Danois. Il y a ce phénomène qu'on appelle « not in my backyard », c'est-à-dire pas à côté de chez moi, c'est-à-dire je veux bien qu'il y ait des éoliennes mais pas à côté de chez moi, qu'on peut avoir aussi avec les usines, qu'on peut avoir aussi avec les pylônes électriques, c'est-à-dire qu'on est content d'avoir de l'électricité mais on veut pas avoir la source de l'électricité près de chez soi. Au Danemark, ils ont fait en sorte d'associer les gens non seulement pour leur demander leur avis sur les lieux d'implantation, mais aussi pour les intéresser aux résultats économiques. C'est-à-dire faire en sorte que si ça rapporte de l'argent, les gens qui sont copropriétaires, puisque c'est des parcs citoyens, gagnent aussi de l'argent avec ça. Donc, d'une certaine manière, ils prennent la responsabilité de ça. C'est aussi un exemple de sujet où on a besoin de bien réfléchir de façon systémique, comme le disait Natacha tout à l'heure. Évidemment, l'éolien peut avoir des impacts négatifs à certains endroits. Je parlais notamment à Laurent Tillon, qui travaille à l'ONF, qui me racontait que dans certaines zones...
À l'Office national des forêts.
Les éoliennes pouvaient augmenter la mortalité de certaines chauves-souris qui étaient prédatrices de hannetons, et donc il y avait des hannetons qui allaient ravager des forêts. Ce qui n'est pas du tout notre intérêt non plus pour la question climatique.
Et ça montre d'ailleurs la complexité de ce qu'est le combat écologique. Il n'y a pas de vision claire.
Et puis il n'y a pas de solution miracle. Enfin, ça, c'est Jean Covici qui dit ça très souvent, mais d'autres le disent aussi. Il n'y a pas d'énergie totalement propre. Il y a toujours un impact. La question est de savoir quel est l'impact le moins important et quel est celui qu'on choisit, mais qu'on choisit ensemble. Là, sur la question, par exemple, du nucléaire qui a beaucoup occupé l'espace avec Emmanuel Macron qui propose de construire des mini-EPR. Où est la concertation? C'est des choix qui sont quand même extrêmement lourds, qui engagent le pays, qui créent des risques. Où est-ce qu'on consulte? Quand est-ce qu'on consulte la population sur ces choix qui vont être faits pour plusieurs décennies?
Bah, il y a une élection présidentielle justement où il y aura des programmes où le mix énergétique sera réparti différemment selon les candidats. Gilles Finkelstein, puis Natacha.
Oui, ça serait rien. Ça serait le moins que ce soit un des sujets centraux de la campagne présidentielle, parce que si on relance, et c'est une option, de nouveaux parcs nucléaires, ça nous engage, je le disais sur cette antenne il y a quelques semaines, ça nous engage jusqu'à 2100, compte tenu du temps de fabrication et après de la durée de vie, donc ça mérite un débat, et la présidentielle en est l'occasion. Le point de départ, c'est sans doute pas de commencer par quel type d'énergie, mais de ce que vous disiez tout à l'heure, 75% des émissions, une centaine d'entreprises dans le monde, pour beaucoup, le charbon et le pétrole. Et donc, comment on fait pour en sortir? Je crois que c'est ça, quand on regarde la hiérarchie des objectifs, le premier point. Et ce qui est très intéressant avec ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer encore avec l'éolienne en mer de Saint-Brieuc, c'est que c'est un appel d'offres qui a été lancé il y a maintenant plus de 10 ans. C'est un projet relativement modeste quand on regarde le nombre de mâts, qui est très proche des côtes, beaucoup plus que la nouvelle génération. Là, on est, je crois, à 15 kilomètres. Les nouvelles générations, c'est à 80 kilomètres. Et je trouve une des questions qui nous est collectivement posée, c'est les difficultés que l'on a, qui sont des grosses difficultés. Est-ce que cette difficulté, elle est circonstancielle? Elle est liée au fait que la localisation est mal choisie? Mais c'est quoi une localisation bien choisie? À une concertation qui n'est pas bonne, au fait que ce soit trop près, ou est-ce qu'on a un problème plus structurel dans notre pays, où c'est plus difficile qu'ailleurs. On voit comment les Britanniques ont beaucoup d'avance. Et dans les scénarios qu'a fait RTE, le réseau de transport d'électricité, il y a quelques jours, on voit que si on veut avoir, ils disent c'est techniquement possible, 100% d'énergie renouvelable, il faut avoir 120 parcs comme celui de Saint-Brieuc en France. D'ici 2050, on n'a pas réussi à en faire un dans les dix dernières années. Et donc c'est aussi comme ça, je crois, que se
Mais
pose
alors, quelle est votre
la
question,
question sur
Cyril Lyon.
Eh ben, est-ce que c'est pas comme ça que se pose aussi la question sur le nucléaire,
Cyril Lyon?
Mais bien sûr, mais ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que ça méritait une consultation, ça demande de rentrer un tout petit peu dans les détails, ce qui est relativement peu le cas dans les campagnes présidentielles. Et puis, dans une campagne présidentielle, il y a des promesses. Je pense notamment au candidat Hollande qui dit « je vais réduire la part du nucléaire de 75% à 50% ». Il l'a pas fait. Donc, il faut pas non plus se dire « ah bah c'est bon, on en a parlé pendant la présidentielle, on a fait le
Mais
tour
vous seriez pour une sortie du nucléaire ?
Moi, je suis pour, encore une fois, régler cette question d'un point de vue démocratique. Moi, je suis pas personnellement...
Non, mais je vous pose la question parce que l'écologie politique en Allemagne, par exemple, où les Verts sont extrêmement puissants, l'écologie politique est née du combat contre le nucléaire. En France, c'est plus compliqué, mais en tout cas, la question pour les écologistes, ça a été pendant très longtemps comment sortir du nucléaire. Et c'est d'ailleurs le choix qu'a fait l'Allemagne.
Moi, personnellement, je suis très très loin d'être fan du nucléaire. Maintenant, on est dans une situation qui est particulière aujourd'hui, où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Donc on sait bien que dans les 20 ans qui viennent, par exemple, on a besoin d'utiliser toutes les énergies décarbonées. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les 25 ou 30 ans? C'est-à-dire quels sont les choix qu'on fait aujourd'hui stratégiquement? Où est-ce qu'on investit l'argent pour savoir de quelle façon on va produire notre énergie dans 25 ou 30 ans, au moment où ces centrales nucléaires qu'on a par exemple en France seront définitivement en fin de vie et qu'il faudra prendre d'autres options. Moi, il me semble qu'il faut prendre les options qui sont à la fois les plus efficaces, mais qui sont aussi les moins dangereuses. Moi, j'ai un problème avec la dangerosité du nucléaire sur plein d'aspects.
Alors, revenons justement à cette question de la transition énergétique, puisque l'éolien, on en parlait, c'est l'un des symboles de l'énergie renouvelable contre l'éolien. On a avec nous le maire de Pléneuf-Val-André, c'est pas très loin de Saint-Brieuc, Pierre-Alexis Blévin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous faites partie des maires qui ont voté contre le projet éolien.
Moi, je fais partie des maires qui se sont opposés au projet éolien pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'une part, nous n'avons pas été associés. Il y a eu de la concertation de façade, mais il y a un comité de gestion et de suivi du projet de parc éolien auquel les communes littorales concernées ne sont pas associées. Première chose.
Donc toujours la question démocratique évoquée, Cyril Lyon.
Voilà. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue environnemental, on n'a pas pu avoir accès aux études d'impact et on a appris qu'il y avait eu 59 dérogations environnementales. Et puis la troisième chose, sur laquelle on a attiré quand même les services de l'État, et avec trois maires, le maire de Plévenon et le maire d'Erquy et moi-même, nous avons écrit au ministre du Budget et au ministre de l'Environnement pour informer que depuis 1985, on avait en Bretagne un réacteur nucléaire à Brennilis qui était toujours en attente d'être démantelé, et qu'aujourd'hui on a un parc éolien qui a une durée de vie de 40 ans et dont le financement, en fait, c'est un cautionnement bancaire pour le démantèlement. Le souci, c'est qu'aucune banque, ne peut s'engager sur 40 ans, puisque tout est lié à la santé financière de l'exploitant. Et on a proposé tout simplement qu'il y ait un fonds de garantie et qu'on force l'ensemble des exploitants, tant pour les éoliennes offshore que onshore, à alimenter ce fonds tous les ans auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et aujourd'hui, on attend toujours parce qu'on a peur d'avoir un cimetière d'éoliennes à l'issue des 40 ans d'exploitation, notamment si l'exploitant fait faillite. Voilà.
Merci pour la clarté de votre exposition. On a le sentiment que le combat écologique, il se joue sur le terrain de la finance. Vous vous souvenez de cette phrase « mon ennemi, c'est la finance » Mais ça fait plusieurs fois maintenant qu'on entend justement que c'est de la finance que viendra une partie de la solution au problème climatique.
En tout cas, c'est de l'endroit où on décidera d'investir ou non l'argent, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr. Mais ça viendra aussi de notre capacité à nous concerter et à trouver des solutions intelligentes. Là, qu'est-ce qu'on entend en fait ? Que sur chaque territoire, il y a des enjeux particuliers. Et que la meilleure façon d'y répondre, c'est de permettre à ces acteurs du territoire de trouver ensemble une modalité qui fonctionne. Avec un cap, avec des objectifs. Mais après, il faut qu'on tienne les objectifs. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60% d'ici 2030. En fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Et donc, si on veut continuer à produire de l'énergie, il faut bien qu'on trouve une solution. Donc, il ne faut pas non plus qu'on se paralyse les uns les autres en permanence, en se disant qu'il y a quelque chose qui va nous tomber du ciel et qui va nous permettre de sortir des énergies fossiles. Ce n'est pas le cas non plus.
Natacha Polony.
On peut d'ailleurs ajouter sur cette question qu'il y a aussi une dimension qui n'a pas été abordée, qui est la dimension de l'emploi. Et c'est une dimension essentielle, parce qu'on ne peut pas non plus penser l'écologie sans penser les bassins économiques et la façon dont on permet de développer. Un projet comme celui-là doit créer de l'emploi sur un territoire pour recréer de la vie. Et je pense que la relocalisation de l'économie, c'est une dimension fondamentale. Et j'ajoute que la question, me semble-t-il, de l'énergie, comme toutes les questions écologiques, doit être pensée sans dogmatisme, c'est-à-dire à la recherche d'un équilibre et parfois, hélas, d'un moindre mal, parce que sur la question énergétique, en effet, on ne réussira pas à baisser autant qu'on le voudrait notre consommation d'énergie. Le mot d'Internet a été prononcé par Ali Badou tout à l'heure, mais il faut quand même prendre conscience du côté ravageur du numérique du point de vue écologique. Le nucléaire a été pendant très longtemps absent totalement de la pensée écologiste. C'était le mal absolu au point de se focaliser là-dessus et d'oublier tout le reste. Et l'Allemagne, en effet, a un bilan écologique qui n'est quand même pas bon à cause de cela. Donc la question, c'est celle des équilibres, des justes équilibres. Et je crois pas non plus que la solution viendra de la solution du scénario de RTE qui est celui de uniquement le renouvelable, parce qu'en effet, faire 120 parcs éoliens en France...
On ne pourra pas se passer du nucléaire.
Je crois qu'on ne pourra pas s'en passer et qu'en revanche, il faut le considérer comme un moindre mal dont on doit sortir à un moment, mais que je pense que l'urgence, en effet, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de penser, en fait, là, une fois de plus, j'y reviens, dans sa totalité, c'est-à-dire que je crois aussi que la préservation de la beauté des paysages, c'est-à-dire de paysages qui ne soient pas uniquement industriels et artificiels, ça fait aussi partie de l'émerveillement envers la nature et donc de notre capacité à comprendre qu'il faut la préserver.
Ça, c'est un argument que vous entendez ou pas?
Mais complètement. Mais alors, moi, j'ai envie de vous dire, faisons-nous ces réflexions pour tout. Enfin, vous avez quand même remarqué que tous les centres-villes, aujourd'hui, sont entourés de zones commerciales, avec d'énormes hangars, avec que la France est jalonnée de pylônes électriques. Donc moi, je veux bien qu'on dise que les éoliennes, c'est l'horreur pour les paysages. Mais les paysages ont quand même largement été détruits par l'urbanisation galopante et par l'artificialisation des sols qui n'a pas cessé pour du développement économique. Et puis les mêmes personnes qui construisent des McDonald's disent « Ah mais on va pas défigurer les paysages avec des éoliennes ». Il faut quand même être un tout petit peu sérieux.
Et on peut ajouter maintenant les entrepôts Amazon. Parce que c'est encore une autre forme d'artificialisation des sols et d'augmentation de la consommation. L'empreinte carbone d'Amazon, c'est l'équivalent du Portugal, quand même.
C'est ça. Gilles Finkelstein, ouais. Et puis on va ensuite aller
juste un mot
dans
pour prolonger ce que disait Cyril Dion. Si on prend au sérieux l'objectif de la neutralité carbone et on sort du gaz et on sort du pétrole et on sort du charbon à horizon 2050. Même dans le scénario qu'évoquait Natacha et qui fait débat de « on refait un peu ou beaucoup de nucléaire ». Même dans ce scénario-là, dans les 20 ans, le principal enjeu, c'est le développement des énergies renouvelables et dans des proportions qui sont des proportions importantes. Hein. Là, on parle de 60 mâts sur le centre éolien de Saint-Brieuc. C'est 1500 mâts à minima qu'il faut faire, et c'est deux fois plus d'éolien terrestre, plus le solaire. Et donc, on est tous devant des contradictions entre un discours général de l'objectif et puis son application concrète. Et la question, c'est comment on fait, et la démocratie, de ce point de vue-là, est un outil, mais on voit aussi les difficultés, comment on fait collectivement pour surmonter ces contradictions.
On a besoin d'innovation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir, par exemple, des éoliennes qui sont capables de produire plus d'énergie avec un seul mât. On a besoin de faire en sorte de pouvoir stocker cette énergie de façon intelligente. On a besoin d'augmenter, par exemple, pour le solaire, les rendements, et c'est le cas, le rendement des panneaux augmente. Mais clairement, on va pas pouvoir couvrir l'ensemble des surfaces, que ce soit des surfaces agricoles, avec des panneaux solaires. Donc, il faut que chaque panneau solaire soit à plein rendement et qu'on les mette dans les endroits les plus intelligents possibles, typiquement en haut des bâtiments et de ces grands hangars, plutôt que sur des espaces sauvages. Et puis, on a besoin de trouver le moyen de réduire notre consommation d'énergie. Et pour ça, on a besoin de... On a besoin de se donner comme une espèce de... C'est l'association Négawatt qui dit ça, qu'une sorte de code de la route de l'énergie, c'est-à-dire oui. Regarder quelles sont les dépenses énergétiques qui sont vraiment superflues. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des écrans vidéo, mais d'une taille absolument considérable pour faire de la pub à longueur de journée ? Partout, regardez dans les gares
mais
aujourd'hui.
Mais vous refusez de répondre à ma question sur la consommation individuelle de séries, de jeux vidéo. C'est un phénomène qui est massif, Cyril Dion, et en l'occurrence qui est au cœur de la vie des jeunes que vous essayez d'entraîner dans votre combat.
Mais évidemment que c'est un problème. Mais là encore, on revient à cette question du récit dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, si le récit, c'est que nous sommes dans un monde de divertissement, et que le but, c'est que le divertissement vienne apaiser finalement toutes nos langueurs, toutes nos frustrations de pas toujours faire le métier qu'on aime, d'être fatigué, d'avoir justement des angoisses par rapport au devenir du monde, bah évidemment on va regarder de plus en plus de séries. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaye encore une fois de faire avec Animal, désolé c'est encore aller voir un film, mais c'est au cinéma.
Mais c'est pour la bonne cause.
De construire des trajectoires de sens, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on donne du sens à nos existences sans avoir besoin de les compenser finalement par du divertissement parce qu'on se sent trop mal.
Il y a évidemment le sens qu'on donne à nos existences et puis il y a les impacts des activités humaines sur la santé pour le coup, sur les existences, sur les vies biologiques, sur nos organismes, sur nos corps. Et Serge Lequiot est avec nous, il est militant syndical de l'Union syndicale solidaire à l'origine du projet de la COP des masques. Ça fait 10 ans, bonjour Serge Lequiot, merci bonjour. D'être avec nous. Ça fait 10 ans que vous défendez les victimes de pesticides.
Oui, je défends depuis 10 ans donc les salariés de la coopérative agricole Triskalia, qui est un véritable état dans l'état, qui est dirigé par la FNSEA. Les élus de la région obéissent finalement au désiderata de cette coopérative. Et ils ont été gravement intoxiqués par des pesticides interdits. Et voilà, donc c'est un combat exemplaire qui a été mené par les salariés, qui sont devenus des lanceurs d'alerte et qui ont fait d'ailleurs bouger énormément les lignes. Voilà.
Et il y a un projet de COP, coopérative.
Alors justement, sur la coopérative, je crois que c'est important de dire, c'est que j'ai entendu tout ce qui a pu être dit à l'émission, on parle beaucoup, il faut évidemment faire une relocalisation, hein, Natacha Polony.
Nous sommes tous masqués. Voilà.
Et il faut relocaliser.
Le masque est revenu dans nos vies. Voilà. Mais ça a été une question, effectivement. Où est-ce qu'on produit les masques?
Voilà.
Est-ce qu'on les importe de Chine? Est-ce qu'on reste dépendant de leur production à l'étranger?
Voilà.
Et vous êtes emparé du sujet pour essayer de l'affronter.
On a lancé un appel citoyen. C'est l'Union syndicale solidaire et puis la Confédération paysanne des Côtes d'Armor. On a lancé un appel citoyen le 26 mars, en pleine pandémie, parce qu'il y avait une usine Honeywell. Donc, qui avait fermé 2 ans précédemment, qui fabriquait des millions de masques. Ils ont délocalisé leur production en Chine et en Tunisie et licencié tout le personnel. Voilà. Donc nous, on a lancé un appel citoyen qui a été repris par les élus pour soutenir la proposition de créer une coopérative d'intérêt collectif. Pour
et vous l'avez fait masques. En quelques mois et grâce à une mobilisation citoyenne.
Oui, exactement. Il y a eu 2000 citoyens qui ont pris des parts sociales. Voilà. Et donc, c'était un grand succès. Mais ce que je voudrais dire, par rapport aux éoliennes, ce qui n'a pas été dit, et c'était pourtant essentiel, c'est que c'est un groupe multinational, Iberdrola, qui est venu faire de l'argent en Bretagne, mais qui n'en a rien à faire, des Bretons, qui n'en a rien à faire de faire de l'énergie propre. Voilà. Et pour revenir vite fait, ça, parce que ça va s'amener sur la COP, la formidable mobilisation citoyenne des élus de la région, et puis aussi de certaines entreprises ont permis de créer une coopérative, de créer des emplois, fabriquer des masques. Mais aujourd'hui, parce que dans la tête beaucoup de trop d'acteurs économiques et d'élus, on continue à penser que ce qui est essentiel, c'est le prix. Et aujourd'hui, les masques qui sont produits dans les Côtes d'Armor, près de Guingamp, coûtent 2 centimes de plus que les masques chinois. Mais malheureusement, le gouvernement français et la plupart des collectivités territoriales continuent à s'approvisionner en Chine parce que c'est moins cher.
Voilà, espérons qu'on n'en aura plus besoin bientôt. Merci infiniment.
Donc, je lance un appel. Achetez des masques à la COP. Allez sur le site de la COP, COP des masques. Et voilà.
Merci, le message est passé. Moi, j'en lance un autre. J'espère qu'on n'aura bientôt plus besoin de masques, mais c'est plus un vœu pieux. Je reviens vers vous, Cyril Dion, et à ce film Animal, en l'occurrence. Comment se fait-il que la question du bien-être animal apparaît en filigrane régulièrement dans le débat public? Alors, il est parfois question de l'élevage intensif. On a tous vu les vidéos chocs d'associations comme L214. Il est question également de la protection de la vie sauvage. Et pourtant, on a le plus grand mal à imposer certaines règles dures pour éviter la souffrance animale.
Ben parce que on est, enfin c'est ce que dit Baptiste Morisot régulièrement, on est dans une forme de crise de la sensibilité, c'est-à-dire que tout ça nous apparaît très loin. On a du mal à réguler des activités qui occasionnent de la souffrance animale ou carrément la disparition d'espèces, mais on a aussi du mal à réguler des activités qui occasionnent de la souffrance humaine. Parce que c'est loin, parce qu'on le voit pas, parce qu'on voit pas les gens qui fabriquent nos smartphones, on voit pas les gens qui travaillent dans les abattoirs. Mais là, c'est pareil, cette vie sauvage, on la voit pas. On est très souvent, comme vous le soulignez, justement, sur nos écrans, en train de regarder des séries. Il y a une forme d'intermédiation qui a été créée entre nous et le monde par les écrans, et une forme d'artificialisation qui s'est créée dans des milieux qui sont très urbains, entre nous et le monde sauvage. Et il y a plein d'enfants, enfin c'est une étude que nous citait Philippe Descola quand on l'a interviewé pour le livre, qui nous disait dans les quartiers...
Immense intellectuel, anthropologue, qui a parcouru le monde, travaillé sur
les Indiens
populations, notamment en Amérique latine, oui.
Qui nous disait dans les banlieues des défavorisées des grandes villes américaines, la plupart des enfants ont un mot pour dire oiseau, et un mot pour dire arbre. En revanche, ils connaissent des centaines, voire des milliers de logos, de marques. Et ils nous disent, c'est normal puisque c'est ça qu'ils fréquentent au quotidien. Donc si on ne permet pas à ces personnes-là, donc que ce soit des adultes ou des enfants, de fréquenter le monde vivant, il n'y a aucune chance qu'on le connaisse, donc qu'on l'aime, donc qu'on ait envie de le protéger. Ça semble juste être des ressources.
Et on revient à la question du récit, on revient à la question effectivement des imaginaires, et on revient effectivement à votre combat de militants écologistes qui passe notamment par des films, parce que c'est vrai que c'est ce qui influe sur notre manière de voir le monde. On se souvient de Demain que vous aviez fait avec Mélanie Laurent et qui avait eu un très grand succès. Ce film animal pose encore d'autres questions qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder, celle de savoir si vous pensez qu'il y a une continuité, si vous êtes antispéciste ou s'il y a un propre de l'homme.
Je suis multispéciste.
Vous êtes multispéciste. S'il y a un propre de l'homme, ce serait quoi?
Ben, j'ai l'impression que on en a parlé vachement avec Philippe Descola, qui disait que, et on tombait d'accord sur le fait que la grande spécificité des humains, c'était d'être capable de construire des récits et de partager ces récits. Et il me semble que ce que les humains pourraient faire aujourd'hui, en tout cas si on devait avoir une vocation, si tant est que notre vie ait un sens, j'en sais rien, mais si tant est qu'on veuille lui en donner un en tout cas, ça pourrait être de jouer notre rôle dans ce vivant, c'est-à-dire de perpétuer la vie et de faire en sorte que grâce à notre compréhension des écosystèmes, on enrichisse le vivant plutôt que de le détruire.
Et que nous soyons animaux parmi les autres animaux. Merci infiniment Cyril Dion d'avoir été avec nous aujourd'hui. Animal, le documentaire, il est au cinéma et on recommande chaleureusement d'aller le voir. Animal, le livre est publié chez Actes Sud dans votre collection Domaine du Possible. Chaque génération a son combat, voici le nôtre. C'est le sous-titre de ce livre où beaucoup de questions sont abordées. Merci Gilles et Natacha et merci à vous, cher public. Merci à vous qui nous avez magnifiquement accueillis dans cette ville de Saint-Brieuc. Merci à la fantastique Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique, tout le monde acquiesce quand on dit fantastique Mathilde Clatt, et elle le mérite, et ça c'est sûr. À la technique, on l'applaudit bien fort, Mathilde Clatt. Benjamin Chauvin, Thomas Robin, Martin Troadec, Oussama Louribi, toutes les équipes d'Inter et de Radio France, merci à la ville et à la mairie de Saint-Brieuc de leur accueil. Merci à France Bleu et à Ouest France pour leur aide, ainsi qu'à tous les participants. Le grand face-à-face XXL, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode.